Bienvenue sur cette nouvelle capsule d'information astronomique du Planétarium de Montréal pour le mois de février 2010. C'est février et il y a des cœurs partout, y compris sur Mars. De plus, Vénus, la déesse de l'amour, nous fait la grâce de sa présence dans le ciel du soir. Au milieu du mois, l'étincelante planète a même rendez-vous avec Jupiter juste à temps pour souligner la Saint-Valentin. La planète rouge continue à attirer notre attention ce mois-ci. Le 27 janvier, la Terre et Mars étaient au plus près l'une de l'autre, séparées d'à peine 5,5 minutes-lumière. Résultat, la planète rouge rivalisait d'éclat avec Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Cet état de choses commence toutefois à s'estomper dès la première moitié de février, alors que la Terre et Mars s'éloignent à nouveau l'une de l'autre. Mais Mars n'a pas dit son dernier mot. Au cours de cette période, on retrouve la planète rouge à moins de 4 degrés au-dessus du célèbre amas de la Ruche, au cœur de la constellation du Cancer. Les deux objets sont visibles dans le même champ de jumelles. La teinte rouge-orangée de Mars domine les faibles étoiles de notre crabe céleste. La planète Mars est depuis longtemps enveloppée d'un voile d'intrigue et de mystère. À cause de sa couleur qui rappelle celle du sang, les Romains de l'Antiquité l'ont baptisé du nom de leur dieu de la guerre, qu'il vénérait presque autant que Jupiter, le roi des dieux. Mais ce mois-ci, la couleur de la planète rouge symbolise quelque chose de beaucoup plus doux, la Saint-Valentin. D'ailleurs, la surface martienne nous réserve une jolie surprise, un bouquet de cœurs. Les images qui accompagnent la version web de cette capsule ont été prises grâce à la caméra à haute résolution qui se trouve à bord de la sonde Mars Global Surveyor, arrivée en orbite autour de la planète rouge en 1997. Bien que leur ressemblance à des cœurs soit particulièrement frappante, ces formations géologiques ont toutes été produites par des phénomènes naturels, érosion par le vent, affaissement du sol et écoulement de l'eau. Car oui, c'est officiel, il y a bel et bien de l'eau sur Mars, sous forme de glace. Les observations récentes de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter nous en ont apporté une autre preuve. Mais la surface martienne était jadis plus chaude et humide et l'eau y coulait librement. Cette notion a été préfigurée en 1895 par Percival Lowell lorsqu'il écrivit au sujet des canaux martiens et de la vie intelligente sur la planète rouge. La thèse soutenue par Lowell était en partie inspirée des travaux de l'astronome italien Giovanni Schiaparelli, qui avait observé ce qu'il croyait être des canali, ou chenaux, à la surface de Mars. On a démontré plus tard que ces observations étaient des illusions d'optique, mais l'idée qu'il y ait de la vie sur Mars persiste depuis plus d'un siècle. En fait, la recherche de formes de vie est au cœur de nos efforts actuels d'exploration de la planète rouge. La notion selon laquelle d'anciennes civilisations ont pu laisser leur marque à la surface de Mars fait rêver. À chaque fois qu'on découvre une formation géologique martienne qui ressemble un tant soit peu à un objet familier, qu'il s'agisse d'un visage ou, dans le cas présent, de cœur, on ne peut s'empêcher de s'étonner et de se demander « Et si d'anciens martiens nous avaient vraiment laissé un Valentin ?» Mars n'est pas la seule planète visible ces jours-ci. Ainsi, Mercure est au beau milieu d'une apparition dans le ciel du matin qui prendra fin vers la mi-février. La petite planète est plus facile à voir au cours de la première semaine de février. Vous la trouverez bas, à l'horizon sud-est, environ une heure avant le lever du soleil. Après la Saint-Valentin, la petite planète se noie rapidement dans l'éclat du soleil et n'en ressortira pas avant le printemps. Vénus et Jupiter, les deux plus brillantes planètes, forment un formidable duo à l'horizon ouest au milieu du mois. Bien qu'elles soient très basses, elles demeurent assez faciles à repérer à cause de leur grand éclat. Le 14 février, une vingtaine de minutes après le coucher du Soleil, Jupiter apparaît à 2 degrés au-dessus de Vénus, la plus brillante des deux planètes. Le lendemain soir, 15 février, l'anniversaire de naissance de Galilée, Vénus n'est plus qu'à 1 degré de Jupiter. Un mince croissant lunaire les surplombe et ajoute à la beauté de la scène, un cadeau céleste pour le père de l'astronomie moderne. La conjonction atteint son point culminant le 16 février, alors que les deux planètes ne sont séparées que d'un demi-degré. Au cours des soirs suivants, Jupiter s'enfonce dans les lueurs du Soleil couchant tandis que Vénus poursuit seule son chemin, s'élevant graduellement dans le crépuscule. Pendant ce temps, Saturne se retrouve parmi les étoiles de la constellation de la Vierge. La planète aux anneaux se lève vers 21h30 au début de février et 2 heures plus tôt à la fin du mois. Parce que ces anneaux ne nous apparaissent inclinés que de 4 degrés à l'heure actuelle, Saturne n'est pas particulièrement brillante. Néanmoins, la planète rivalise d'éclat avec Spica, l'étoile principale de la Vierge. La lune gibbeuse décroissante passera sous Saturne tard dans la soirée du 2 février. Alors que nous franchissons le cap de la mi-saison, les étoiles d'hiver dominent complètement la voûte céleste en soirée. On retrouve vers le sud Orion, le chasseur, et juste au-dessus, le taureau, le cocher et les gémeaux. Les deux chiens d'Orion, le grand et le petit chien, le suivent à travers le ciel. Au nord-est, on aperçoit debout sur son manche le chaudron de la grande ourse qui s'apprête à occuper sa position printanière au zénith. À l'est, le lion apparaît au-dessus de l'horizon, un autre signe que le printemps approche. À l'ouest, enfin, les constellations d'automne s'apprêtent à quitter la scène. Le grand carré de Pégase, en équilibre sur un de ses coins, ressemble davantage à un losange en train de se coucher. Juste au-dessus, Andromède, Cassiopée et Persée attendent leur tour pour disparaître à l'horizon nord-ouest. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres encore dans la section intitulée Dans le ciel du site web du Planétarium de Montréal au www.planétarium.montréal.qc.ca. Vous pouvez également joindre le Planétarium de Montréal par téléphone au 514-872-4530. Cette capsule est une production du Planétarium de Montréal. Texte, Louis Bernstein. Prise de son, Mathieu Forcier. Webmestre, Marc Jobin. Ici Pierre Chastenay qui vous dit bonnes observations et à la prochaine.